Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette nouvelle émission Clone Wars. Ce soir, nous finissons notre rattrapage des arcs qui n'ont pas été traités lors de leur sortie, avec la saison 6, les épisodes 11, 12 et 13, qui viendront donc clôturer la série. Je suis Loïc, et ce soir, je suis accompagné de Faye et David. Bonsoir tous les deux.
Salut.
Salut.
Alors, on va faire un très très rapide WhatsApp parce que nous venons d'enregistrer une autre émission Clone Wars juste avant, donc nous n'avons pas grand chose à dire de plus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ça, les amis ?
Ouais, je vais rajouter que j'ai vu il y a pas longtemps le Saturday Night Live avec Adam Driver qui a fait une suite au sketch justement de Ghost Undercover avec Kylo Ren.
C'était très drôle.
C'était très drôle. Il y avait des sketchs moins bien que d'autres, mais vraiment, il était très très bon, Adam Driver. Donc, je continue à adorer cet acteur.
Et d'ailleurs, dans Résistance, il y a un personnage, enfin, c'est le personnage principal dont j'ai oublié le nom ce moment, il est habillé comme Matt le technicien.
Matt le technicien, ok. Mais, là, c'est Kaz.
Kaz, il est habillé comme Matt le technicien.
Ouais, ouais. C'est trop bien.
Oui, c'était un super clin d'œil, ça.
C'est génial.
Ce qui, du coup, canonise... Est-ce que ça canonise Matt le technicien ? C'est ça la véritable question.
Costume. Après...
Mais on peut le canoniser. Enfin, moi, j'adore, de façon...
C'est un peu comme les histoires de Lego. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui peuvent être canons. Ça peut être des vaisseaux, ça peut être des costumes, ça, c'est bon. Par contre, les événements sont un peu plus fantasmés. Moi, c'est comme ça que je le prends.
C'est quand même super drôle, le mec qui s'occupe en essayant de se déguiser pour être aimé de ses employés. Moi, ça me... Je sais pas, parce qu'il doit bien s'emmerder quand même entre deux films, je sais pas, moi.
C'est vrai. Et du coup, moi, ce que je vais dire aussi, c'est un peu de la promo et un peu des félicitations. C'est les Star Wars 101 de Francis qu'il faut aller voir. Ils sont super intéressants, il a fait un super boulot dessus, c'est bien mis en scène, c'est bien... bien clair. Voilà, c'est vraiment la clarté de l'information qui prévalue. Donc, bah, bravo Francis.
Bon, on est d'accord, la pastille Star Wars 101, c'est vraiment quelque chose qui est fait par des fans pour des fans, quoi.
Ah bah oui.
Alors, moi, je vais faire un petit WhatsApp, puisque je n'en ai pas parlé lors de la précédente émission que nous avons enregistrée il y a 5 minutes. Je suis allé voir encore l'épisode 9, donc je l'ai vu 3 fois en tout. Et je suis surpris en fait de voir qu'à chaque fois que je le visionne, j'ai de plus en plus d'émotions. Je suis d'autant plus touché par ce qui se passe et c'est la première fois que vraiment je vois vraiment Alors j'avais dit quand le 9 est sorti que Adam Driver était vraiment très très bon dans le film, mais alors là au bout du troisième visionnage, mais il m'a complètement conquis. Je suis rentré dans le film par son jeu. Et c'est voilà, vraiment la scène avec la scène à la fin des ruines de l'étoile de la mort, il m'a pris. Mais je sais pas, est-ce que j'étais plus près, est-ce que je voyais mieux, est-ce que l'écran était plus adapté pour voir son jeu d'acteur, je ne sais pas.
C'est juste qu'il est formidable, c'est tout.
Mais voilà, je l'avais déjà trouvé formidable au premier visionnage, mais alors là avec le troisième visionnage, c'était j'étais subjugué. Et il m'a subjugué pendant tout le reste du film.
Non, mais il est fort, je veux dire, qu'il y a des moments, vers la fin, sans trop spoiler, il parle pas, mais qu'est-ce qui fait passer comme émotion avec
ça.
Le regard, la gestuelle. Mais c'est fou, enfin, je disais dans le podcast, il y a même des moments, il arrive à avoir des gestuelles d'Harrison Ford, quoi. Je fais, waouh, c'est vraiment, t'y crois que c'est le fils de Han Solo, vraiment.
Il est presque meilleur quand il parle pas, au final.
Je suis pas d'accord parce que dans cette sur les ruines de l'étoile de la mort, il parle beaucoup même. Mais c'est vrai que tout passe dans le regard. Oh, mon Dieu, mais j'étais vraiment subjugué. Quoi. C'est vraiment, pourtant, je l'ai toujours trouvé correct, même plutôt bon. Mais alors là, au troisième visionnage de l'épisode 9, pour moi, il a donné tout ce qu'il avait. Quoi.
Non, mais excellent.
D'accord. Ah, excellent. Moi, je vous conseille Marriage Story avec lui, qui est sur Netflix, si vous ne l'avez pas vu. Il est vraiment excellent. Il y a une scène...
Du coup, ça m'a donné envie de le voir.
Bah, regarde-le, il y a une scène de dispute, mais vraiment, voilà, il mérite sa nomination aux Oscars, et je veux qu'il l'ait, parce que ça m'énerve qu'il n'ait pas eu les Golden Globes, donc au moins un Oscar.
Bon, il finira par en avoir un, si ce n'est pas cette année, ça sera une...
Ah
sera
oui, je suis persuadé qu'il en aura un, ça c'est sûr.
C'est un acteur avec le potentiel d'en avoir un. Après, on verra si un jour... Parce que bon, l'Académie, hein, des fois, on n'est pas toujours d'accord.
De toute façon, maintenant, c'est n'importe quoi, donc...
Et bon.
Alors, n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre sur notre serveur Discord, hein, où vous pourrez suivre nos émissions live et discuter avec l'équipe et avec les auditeurs. Un petit point sur la boutique Star Wars en direct qui a été refondée par Danny. Donc sur le site starwars.direct onglet boutique, vous serez redirigé sur le site Redbubble où tous les jours de nouveaux produits viennent s'ajouter à la liste. Allez y faire un tour, il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Merci à nos partenaires, siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, starwarsgeeksquebec, le Space Trash Show, Génération Star Wars et Science Fiction. Et ben voilà, nous allons enfin passer en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
On attaque avec le premier épisode qui est l'épisode numéro 11. Alors on va pas faire épisode après épisode, on va faire en gros. Je vais donner la grande ligne et puis je vais vous laisser détailler vos avis. Yoda entend la voix de Qui-Gon Jinn dans sa tête. Après un examen médical, il se révèle qu'il n'a rien, mais lui reste sur sa voix. J'entends cette voix et je dois la suivre. Le Conseil Jedi, lui, qui est un petit peu circonspect, veut un peu, bon, on va pas dire qu'il veut il veut l'interner Yoda, mais
ils veulent le mettre en maison de retraite.
Ouais, bon, voilà.
Oui, c'est Pépé Zinzin, quoi. C'est ouais.
Qu'il lui faut vraiment du repos.
Serait-ce un prémisse de l'épisode 5
où c'est il un est vraiment zinzin. 5, ouais.
Mais attends, mais c'est un truc de fou quand même. Le gars, c'est quand même le Jedi le plus respectueux. Il leur dit juste un truc. Oh, mais c'est qui le zinzin? C'est forcément le côté obscur qui l'a rendu fou. Mais oh, qu'est-ce qui se passe là?
C'est clair.
Ah bon, vas-y, continue.
Donc Yoda va s'échapper de l'hôpital, va se mettre en quête des voix, ce qui va l'amener donc vers un voyage à travers la galaxie pour sonder les mystères et la force plus profonde. Et tout ça va le faire débouler sur Moriban, le monde natal des Sith, qui est donc l'ancienne planète Corriban qui avait été à l'époque décanonisée, où il va devoir passer sa dernière épreuve et qui va lui permettre d'apprendre un secret très très puissant de l'ordre Jedi. Mais le chemin est semé d'embûches. Allons-y mes amis, qu'avez-vous pensé de ces épisodes ?
Je sais même pas par où commencer.
Vas-y, Faye, vas-y.
Ouais, vas-y.
Alors, je n'ai pas aimé. En fait, je les ai découverts récemment, ces épisodes, parce que j'avais pas vu à l'époque que c'était sorti. Et il y a plein de choses pas logiques, c'est-à-dire qu'il est contacté par Qui-Gon pour apprendre comment devenir un espèce de fantôme, alors qu'on est habitué, nous, à avoir l'impression que c'est super facile d'en devenir un. Et puis il nous reparle encore des midi-chloriens. Après, on a Yoda qui fait tout un périple sur plein de planètes pour faire des épreuves que... Bah voilà, il connaît tout ça parce qu'il est réussi facilement. Ouais, super. Enfin, c'est long, c'est pas intéressant. Et puis, je sais pas, même visuellement, j'ai pas trouvé ça top. Les espèces de. Je sais pas, c'est une prêtresse, genre qui se sépare en plusieurs, en sept personnages.
Ouais,
les cinq sœurs, voilà. Il y a un côté un peu Miyazaki. Je trouve que j'ai pensé un peu de ça à Chihiro avec espèce de personnage de fantôme avec le masque, là.
Ouais.
Mais j'ai trouvé que c'était bordélique cet épisode, et puis je ne comprends pas les Jedi qui de suite réagissent en disant « Ah ben forcément, il est vieux, il se fait avoir par le côté obscur, oh non, on ne l'écoute pas, alors que dans l'épisode 3, on va te dire c'est le plus sage. » Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, tu vois, ça m'a vraiment déboussolé, j'ai vraiment eu du mal à accrocher, je les ai vraiment trouvés très longs ces épisodes.
Ça, ouais, je les trouve assez inégaux. Après, il y a des passages qui sont assez intéressants quand même. Le côté obscur de Yoda qui est personnifié, qui a un côté très Gollum. Faye, je suis surpris que tu n'as pas dit ça.
Ah, mais oui, bah parce oui, d'accord, Gollum, il se bat contre lui-même. Ah, mais c'est Gollum, oui, ça c'est sûr, c'est sûr.
C'est bien. Qui m'a fait penser à ce genre d'histoire, on le retrouve notamment, on le retrouve dans Zelda 2 sur NES. Je sors de la référence, attention.
Dans Ocarina of Time aussi.
Ou dans Ocarina of Time, c'était la première apparition, c'était Zelda 2. Et souvent, ces histoires-là, elles se finissent sur le fait qu'il faut accepter son côté obscur et que. En fait, il ne faut pas le combattre, parce qu'en faisant des coups d'épée, on va perdre des points de vie. Et il faut lui rentrer dedans, par exemple, pour l'accepter. Et là, pour le coup, bah, c'est même pas ce qu'on nous sert. C'est-à-dire que Yoda, il fait « Non, non, moi, je suis du côté lumineux, te rejette et il disparaît. » J'étais un petit peu surpris par ce comportement. Alors oui, ça a ramené sur des Jedi gris, on en parle tout le temps. Mais j'étais quand même vachement surpris de ce rejet... direct de la part de Yoda.
C'est pas logique. Comment tu peux rejeter tes émotions? C'est n'importe quoi. Ça te dit, en gros, ça dit au gosse qui regarde ça, ah ben non, être vulnérable, avoir des peurs, avoir des machins, c'est pas bien, faut pas les montrer, faut garder tout ça en vous. Mais non, regarde, encore une fois, Anakin, voilà, il pète un câble. Il faut laisser sortir ses émotions. Montrez-les, vous êtes content, riez, vous êtes triste, pleurez, c'est comme ça. Alors.
Faye, il y a quelque chose qui peut un peu expliquer, c'est la phrase qu'il y a au début de l'épisode, du troisième épisode. Affronter nos peurs nous libère. Mm-hmm. Moi, je vois ça comme ça, en fait. Affronter la peur est le destin de tout Jedi. Donc là, Yoda, quelque part, nous, c'est un personnage qu'on n'a jamais vu avoir peur, qu'on n'a jamais vu avoir des comportements trop incohérents. Et là... En fait, ce mec part dans un voyage mystique un peu aux confins de la galaxie. Moi, c'est ce que j'ai apprécié dans ces épisodes-là, en fait. C'est que, oui, tu as raison, c'est bordélique, mais moi, j'ai l'impression que c'est volontaire.
Mais ouais. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est ce côté trop séparé. Encore, ça aurait été sur... En fait, ces épisodes, ils auraient dû être intercalés avec d'autres épisodes. Je trouve, parce qu'on a l'impression qu'il se passe beaucoup de temps, mais en même temps, on suit que lui, donc il se passe peu de temps. Ça aurait été coupé avec des épisodes sur Obi-Wan, sur Anakin. Pendant ce temps-là, Yoda faisait son circuit. Ça aurait été intéressant. Là, moi, je vois une succession de niveaux de jeux vidéo. Notamment, je cite, par exemple, le moment où il est en train de sauter sur des cailloux.
Oui, ça, c'est vrai.
Je regardais avec un pote, on a dit, t'as, c'est Super Yoda Brothers.
C'est vrai.
C'est... Là, ça aurait fait des super épisodes de jeu, hein. Ils auraient dû les faire d'ailleurs au final. Mais, bon.
Mais ils auraient pu faire un épisode avec une quête, avec un côté un peu kung-fu, genre je vais voir des différents maîtres qui m'apprennent des choses. Mais je trouve que c'est pas super bien fait. Et tu vois, quand tu dis affronter nos peurs nous libère, j'ai pas l'impression qu'ils les affrontent, j'ai plus l'impression qu'ils les rejettent. Pour moi, affronter, c'est comprendre ses peurs pour pouvoir justement les dépasser. Et là, il n'y a pas du tout ce truc-là. C'est Yoda, il dit juste « Ah bah non, j'ai décidé que tu devais partir et que je te rejette. » Mais au final, nous, ça aurait été intéressant pour nous de comprendre qu'est-ce qui faisait peur à Yoda, qu'est-ce qui représentait ce côté obscur, d'où ça venait en fait.
Mais parce que et pour donc, moi, en fait, Yoda, c'est le personnage... C'est le personnage lumineux par excellence. C'est celui qui, en plein dans la tempête... va pas lâcher le cap. Et là, il s'est laissé un peu, on va dire, intoxifié par l'emprise du côté obscur, par la guerre, par tout ça. Il s'est perdu dans la guerre. Il le dit à un moment donné, voilà, la guerre, elle nous transforme et tout ça. Et du coup, ben, le fait de repousser ça, ça veut dire je serai toujours votre boussole et votre guide lumineux. C'est un peu le phare dans l'obscurité. Et le phare, lui, il peut pas se permettre d'avoir une part d'obscurité.
De ce point de vue-là, je peux comprendre ce que tu veux dire.
Oui, oui.
Mais c'est toujours un petit peu bizarre et sur certains points.
Parce que c'est peut-être fait de manière un peu bancale, mais
voilà. Je parle de réalisation.
Hein. Ouais, parce que pour moi, ça m'avait pas choqué. Maintenant que tu le dis, effectivement, ce côté jeu vidéo, je le visualise bien aussi. Mais moi, je me souviens que j'avais été aussi emballé par ces épisodes-là que par les épisodes sur Mortis, de par l'exploration de la force.
Alors par contre, oui, ça, je suis d'accord, il y a une partie exploration de la Force qui est vachement intéressante, et des explications qu'on n'avait jamais eues, et qui valent quand même le détour. Et c'est ça qui remonte pour moi ces épisodes, c'est ces révélations sur la Force cosmique et la Force vitale. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Je pense qu'on en reparle.
Bah, la partie sur la planète des Sith, j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
C'est la meilleure partie des trois épisodes.
C'est ce que j'ai préféré. Mais après, c'est vrai que j'ai vraiment... Puis tu vois, il y a des choses qui... Tu vois, on parlait sur l'épisode d'avant que ça arrivait bien à faire le lien avec les films. Et là, j'ai plus de mal avec ces épisodes-là à faire des liens avec les films. Parce que par exemple, à la fin du 3, il dit à Obi-Wan, oui, tu vas être caché sur Tatooine, il faut que tu fasses des exercices pour en gros apprendre à faire comme eux, là, à faire les fantômes de la Force. Donc ça veut dire qu'il est allé faire aussi le même parcours que Yoda pour apprendre. Enfin, alors qu'on nous dit qu'il est sur Tatooine, tu vois, Puis pourquoi les autres, ils y arrivent instantanément, alors que Yoda et Qui-Gon Jinn, ils en ont chié? Enfin,
Qui-Gon, il n'a pas vraiment réussi à le faire. Il a réussi en partie à le faire. Ce qui, du coup, n'est pas forcément super clair non plus. Il y a des problèmes, je trouve, avec ce personnage de Qui-Gon. Par contre, il est redoublé en anglais par Liam Neeson. Ça, c'est intéressant. Et donc, du coup... à la fin, Yoda comprend un peu mieux comment on pourrait faire. Il peut penser à des exercices qui pourraient les mener à ça. Et donc, du coup, il file le secret à Obi-Wan. Parce qu'en final, c'est le seul qui reste.
Moi, je le vois comme ça aussi.
Tu vois, sur le coup, ça m'a pas paru...
Moi, j'ai plus de problèmes avec la disparition de Luke ou d'autres personnages dans l'épisode 9. Moi, je suis plus embêté par rapport à ces personnages-là en me demandant d'où est-ce qu'ils ont appris ça. Je suis plus embêté d'entendre des voix de Jedi à la fin de l'épisode 9 qui n'ont pas appris à transcender leur esprit au-delà de la mort, mais qui en fait font juste partie de la force vivante ou de la force cosmique.
Les voix de l'épisode 9, j'y ai réfléchi. Et au final, je pense que là, sur Hexagol, il y a ce... cet énorme déchaînement de force, et donc du coup le côté force cosmique, force vitale, ça a un petit peu fusionné, et c'est pour ça que ça ouvre cette
porte. Comme un nexus.
Comme un nexus, et ça ouvre une porte qui permet aux autres voix de se faire entendre, alors qu'on ne les aurait pas forcément entendues, je pense.
Oui, c'est possible.
C'est une théorie fumeuse, bien entendu.
Oui, c'est possible. Mais c'est vrai qu'après on a tous ces personnages qui disparaissent, on a ces personnages dont on entend les voix qui reviennent. Est-ce que ce sont des fantômes? Est-ce que c'est juste la force qui envoie un message? On ne sait pas. Toute cette histoire, en fait, dans la saga Star Wars, l'histoire des fantômes de la force, c'est vachement flou. Parce qu'au début, c'est juste une voix. Après, c'est une apparition. Après, il y a une interaction. Dans l'épisode 6, je rappelle quand même qu'Obi-Wan s'assoit sur un tronc d'arbre. Dans l'épisode 8, Yoda met le feu. Alors, dans les scripts de Trevorrow, le fantôme de Luke Skywalker tenait la lame d'un sabre laser. Enfin, il y a toute cette idée qu'en fait, il n'y a pas de limite.
On ne sait pas où elle est, ouais.
Voilà.
Ce qui était amusant, d'ailleurs, dans les premiers bouquins qui sont sortis, c'était les romans sur Throne. Je parle de l'univers légende, bien entendu. Dans les premières pages, même, on se débarrasse du fantôme de Obi-Wan. Où on dit qu'en fait, maintenant, ça fait trop longtemps, il devient trop faible, il ne pourra pas revenir. Donc, c'est déjà...
Ce qui était intelligent.
Voilà. Et déjà, à l'époque, ça posait potentiellement problème.
Ouais,
et là, du coup, ils l'ont mis. Après, Luke, on peut penser qu'Obi-Wan ou Yoda lui ont appris alors qu'il était fantôme. Mais bon.
Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, mais bon, c'est pareil. S'ils sont fantômes, autant qu'ils restent là tout le temps.
Est-ce que c'est possible?
À moins que c'est peut-être pas des vrais fantômes. Après, à un moment, on dit pas que genre que dans... Enfin, tu vois, la force, c'est une force vitale et tout, puis on dit souvent que quand les êtres nous quittent, ils sont toujours là, près de nous. Bah, peut-être que c'est ça aussi, ce serait peut-être le même système que pour... dans l'épisode 9, quand on voit Han Solo, quoi. Peut-être que c'est juste... des souvenirs de ces personnes-là qui restent et qui nous disent des choses qu'on a besoin d'entendre. C'est peut-être pas vraiment eux, mais c'est peut-être nous, ce qu'on a envie de ressentir et ce qu'on aimerait que ces personnes-là nous disent.
Ouais, mais si ça marche par exemple pour l'épisode 6, mais ça marche pas pour apprendre un secret de la force comme transcender la mort.
C'est vrai. Par contre, ce que dit Faye me fait penser à un épisode de Big Bang Theory où justement Sheldon invoque son mentor qui est décédé. Et du coup, il l'habille en Obi-Wan, oui, c'est ça. Et il crée même le décor de Dagobah pour pouvoir lui parler sur le tronc d'arbre que tu évoquais, Loïc.
Oui.
Parce que justement, lui, ça lui permet de discuter et de te faire cette transmission et cette, cette fusion, quelque part. Donc ça renforce.
Ou alors, c'est peut-être comme dans Casper, c'est-à-dire s'ils ont une œuvre inachevée, eh ben, ils ne peuvent pas quitter vraiment la Terre. Donc ils sont là en fantôme. Voilà. Ouais. Et quand ils ont réglé leurs problèmes, ils peuvent partir. Moi, je cherche des idées.
Il faut rappeler Jennifer Love Hewitt.
Ah, peut-être. Ah, oui, oui. Sinon, c'est comme dans Ghost avec Patrick Swayze, tu vois, genre il faut qu'il se concentre pour être en colère ou quoi, pour pouvoir toucher des objets.
Oui, par contre, voilà, c'est intéressant, c'est que, effectivement, on part du principe qu'en fait, on n'y connaît rien déjà à la base.
Oui, déjà. Et qu'il n'y a pas de règles.
Voilà, on pense que les règles, on les connaît parce qu'on les a vues. Est-ce qu'ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça ? On n'en sait rien. Et c'est dans ça. Ghost, effectivement, bah, pendant un moment, il ne sait pas qu'il peut le faire. Et puis ensuite, il apprend qu'il peut le faire. Et voilà, on a. La force, ça évolue dans les films. À chaque film, il y a un nouveau truc. On apprendra encore plus sur les fantômes. Cet épisode essaye de nous en apprendre plus sur les fantômes. Merci, l'épisode.
La force, ça évolue avec la société. On apprend des nouvelles choses. Et les Jedi, ben, ils apprennent, tu vois, ils mixent plein de choses. Regarde, tu prends la fin Rey. Et ben, elle va développer des nouveaux pouvoirs qu'elle va peut-être enseigner. Et on va avoir une mutation de la force et peut-être des nouveaux fantômes et ainsi de suite. Hein.
Ben, moi, ce que je vois de ces épisodes aussi, c'est qu'on a un personnage qu'on nous a présenté comme étant le Jedi le plus fort, le plus puissant. Mmh. Et qui finalement est loin d'avoir fait le tour.
Ah, tout à fait.
Donc, quand il redevient l'élève de Qui-Gon à la fin de l'épisode 3, donc il a ce côté, cette humilité, en fait, alors on l'a pas dans le film, mais ça, c'est dommage, je trouve que c'est un des plus gros ratés. Alors, on l'a dans la novélisation, avec un dialogue en plus entre les deux personnages, où il accepte, il demande à Qui-Gon de le prendre comme élève. Donc, il a l'humilité en tant que le plus grand Jedi de son temps, de se mettre sous la coupe d'un gars qui était même pas au conseil. Et ça, on retrouve un petit peu ici, en fait, c'est peut-être tous ces passages qu'il va vivre qui vont lui faire dire que, ah ouais, non, mais attends, parce que qu'est-ce que moi j'ai appris pendant mes 800 ans de vie sur l'ordre Jedi et sur la force, alors que je suis en train d'en découvrir que je ne soupçonnais même pas.
Mais il a toujours été un perso comme ça, très, très humble, qui te montre qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Enfin, même alors, dans la trilogie, tu le ressens. C'est ça qui fait qu'on s'attache aussi à Yoda. Alors,
tu as raison, mais ce n'est pas ce que nous montre la prélogie.
Non, ça par contre...
Voilà. Et le fait d'y revenir, pour moi, c'est aussi pour replacer le contexte d'un personnage qui va survivre et qui, par contre, va décider de se former. De se reformer ou de s'ouvrir, ce que ne faisaient pas les Jedi jusqu'à maintenant. D'ailleurs, c'est un des reproches que Luke fait dans l'épisode 8 à l'ordre Jedi, c'est d'avoir été tellement pris dans leur dogmatisme qu'ils en sont tombés. Et ben, il a raison, en fait. Ouais, et c'est peut-être à ce moment-là que Yoda peut le comprendre.
Ou mais commencer si tu regardes, à le comprendre. Ça rejoint un peu Ahsoka, qui, pareil, tu vois, remet en question les dogmes Jedi et s'en va. Lui, quelque part, il sait qu'il faut qu'il s'adapte et donc apprendre.
Oui, ah bah, tout à fait, bien sûr. Et alors, je vous rejoins sur un point, c'est qu'effectivement, ces épisodes sont beaucoup moins développés ou beaucoup moins fournis que ne peuvent l'être, par exemple, les épisodes sur Ahsoka, dont on a parlé dans la précédente émission. Mm-hmm. Par contre, moi, je trouve que le côté mystique est... Oui, c'est fouillis, mais il y a ce côté découverte. Ah ouais, cool. Enfin, c'est vraiment. Moi, je me dis quand c'est ça, ouais, la force. On va toujours apprendre quelque chose sur la force. Et en fait, pour moi, ça prime ce fond. Il prime sur la forme dans ces épisodes-là.
Bah, au final, c'est ce qu'on va retenir de ces épisodes-là, en fait.
Bah, moi, c'est des épisodes que je regarde régulièrement, par exemple. Parce que justement, j'ai envie de temps en temps de me remémorer que la force, c'est pas ce qu'on croit. Mmh. Et ça permet peut-être d'appréhender plus facilement les pouvoirs de force qu'il y a dans les films. Parce que si j'ai beaucoup de griefs envers certains films de la nouvelle trilogie, notamment l'épisode 8, il y a quelque chose que j'ai jamais eu de problème, c'est la présentation des pouvoirs de la force. Que ce soit la télépathie, la transmission, ce qui se passe dans l'épisode 9 avec une transmission d'objets, ça ne me choque pas. Voilà, la transfiguration, ça ne me choque pas.
Oui. Moi, j'ai toujours vu la Force comme quelque chose de très spirituel, de très mystique, de très philosophique. Donc, tu peux voir plein de choses. Il y a un côté, ça me fait beaucoup penser à des philosophies asiatiques. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, c'est super grand. Tu peux pas juste dire la Force, c'est ça, point. Non. C'est, d'ailleurs, on le dit, c'est, enfin, quand il parle de l'avenir qui est toujours en mouvement, la Force, c'est pareil, c'est toujours en mouvement. Ça va se nourrir de tout ce qu'on apprend, de tout ce qu'on rencontre, de tout ce qu'on touche. Et forcément, il y aura toujours une évolution dans sa nature, dans les pouvoirs qu'elle va permettre d'utiliser. Donc oui, je suis d'accord avec toi.
Et voilà, bah, moi, c'est ça que j'ai tiré de ces épisodes. Et après, moi, j'ai pris un peu mon pied dans le dernier épisode.
C'est le meilleur.
Ah, bah,
voilà, ok. Ça, déjà arrivé sur le monde des sites avec cette ambiance temple. Alors, à l'époque, rappelons qu'on était dans l'univers légende. Moi, je lisais, j'avais lu la trilogie d'Arkbane à ce moment-là où il y a toute l'académie. Alors, elle n'est pas sur Moriband, je crois, elle est sur Corriban.
Elle est sur Corriban. Alors, ouais. Wikipédia nous dit que Corriban et Moriband sont la même planète. C'est juste
d'accord.
Un ancien nom.
Ok.
Okay. Ils ont tourné ça comme ça.
En tout cas, moi, quand je lisais le livre et que je voyais cet épisode, j'avais vraiment les images qui me revenaient. Voilà, j'avais l'ambiance Academy Sith, elle était là et c'était exactement comme ça que je me la représentais. Donc voilà. Est-ce que c'est dans cet épisode, il me semble, qu'on voit Darkbane également ?
C'est exactement
justement.
Dans cet épisode.
Et ça, c'est quand même génial.
Loïc Petit-Rivière, qui joue Darkbane ?
Qui ça ?
Keanu Reeves,
VO qui joue Darkbane.
Ah, je sais. Tu me l'avais dit. Je sais.
Ah oui, ça c'est. Allez, écoute, tu me l'apprends aujourd'hui et c'est pas mal.
Et ben c'est Mark Hamill.
Mais il est trop fort ce Mark Hamill.
Ah ouais. Ce mec a fait toutes les voix. Vas-y. Ouais, ce mec a fait toutes les voix.
C'est Mark Hamill, génial.
Il est à la fois le meilleur Jedi et le meilleur Sith.
Mais oui, c'est ça qui est assez amusant. Je trouve
c'est
aussi.
Fou.
Il est capable de faire les deux. Il est capable de faire le Joker, il est capable de faire Luke, il est capable de faire tout ce qu'il veut. Il est extraordinaire. Il y a un mini-épisode d'une série sur DC où il joue plusieurs rôles, d'où son propre rôle, qui est extrêmement drôle. Si vous comprenez la VO, je vous invite à aller regarder.
Voilà, en tout cas, aujourd'hui, j'apprends que Mark Hamill a doublé le Seigneur Sith Darkbane, ce qui me semble tellement incroyable. Et alors, moi, je me souviens d'avoir vu...
Et c'est canon, au fait.
Oui, c'est canon, tout à fait, ben voilà. Ouais. Mais justement, je me dis, ben, s'il y a un film avec un jour Darkbane dedans, pourquoi pas demander à Luke Skywalker de faire la voix. Et moi, je me souviens que j'avais été... je trouvais ça incroyable d'avoir une apparition. Alors, Darkbane n'est pas physiquement, c'est une espèce de fantôme, de vision,
oui, alors,
on ne sait pas trop.
C'est pas très clair, je pense que c'est fait exprès.
Oui, ben bien sûr.
Mais voilà.
Mais ils arrivent à rendre cet endroit super inquiétant.
Il y a une ambiance.
Il y a une ambiance de fou. Hein. Vraiment la réussite de ces épisodes. Hein, c'est...
Ah oui, mais moi je me dis...
La
pour
couleur...
Avoir, même si on prend l'épisode avec les prêtresses, tout en teinte de doré, de lumière, visuellement... C'est pas aussi fourni que Moriband, par exemple, mais je trouve que c'est vraiment très réussi parce qu'il y a vraiment une ambiance. Et là, on a une ambiance obscurité, sombre, tombeau, etc. Mais je trouve que ça marche aussi bien l'un que l'autre. On a les deux extrémités de la force, quoi. Et alors, le combat final.
Ah, mais le combat final.
Exceptionnel.
Alors, je trouve que d'ailleurs dans Clone Wars, je le dis maintenant, il y a des combats au sabre laser qui sont extraordinaires et qui n'ont absolument pas pu lire des films.
Ah non, pour moi, les meilleurs combats de la saga sont dans Clone Wars.
Ouais. Mm.
Et le fait d'avoir donc cette vision de son futur combat contre Palpatine, on disait la saison 5, on se rapprochait de l'épisode 3, la saison 6, par certains points et notamment par tout le traitement de l'ordre 66. On se rapproche encore de l'épisode 3. Oui, j'ai dit épisode 6, mais je voulais dire épisode 3. Et ben là, encore une fois, voilà, on est en train de se rapprocher tout doucement. Moi, j'avais qu'une seule envie, c'était que ça continue et qu'on ait des saisons et qu'on ait encore deux saisons où ça devenait plus sombre et où ça devenait plus angoissant et où ça devenait plus impérial.
En tout cas, ça donne vraiment très très envie de voir la prochaine saison là qui va commencer. J'attends vraiment, comme toi, quelque chose de super sombre, qu'on ait quelque chose autour de l'ordre 66. Enfin, vraiment, un truc de fou.
pour le coup, je voulais dire, on a du mal à placer les épisodes d'Ahsoka, qu'on disait tout à l'heure, dans la chronologie. Celui-là, j'aurais tendance à vouloir le placer vraiment juste avant l'épisode 3. Parce que... Ah d'ailleurs, on ne sait pas si au final Yoda voit-il Palpatine ou pas. C'est pas très clair.
Pour moi, il le voit, il l'entend, mais il peut pas savoir qui c'est.
Parce qu'à un moment, on le voit
Dark Sidious.
Il voit Dark Sidious, mais il voit Dark Sidious encapuchonné, quoi.
Mais encapuchonné, on voit presque qu'il pourrait voir à travers la capuche, enfin, sous la capuche. Mais en même temps, c'est un rêve, c'est une vision, c'est un monde parallèle, on ne sait pas trop.
C'est pour ça, parce que si tu le prends au sens au propre du terme, où tu dis il a une vision très claire, tu te dis « Oh, c'est un peu étrange par rapport à l'épisode 3 », parce que quand, quand Palpatine commence à prendre un peu le contrôle, il aurait dû relier à la vision. Donc quelque part, je me dis qu'il vaut mieux le voir comme il a une vision d'un site, sans savoir que ça allait être celui-là, jusqu'au moment où il va l'affronter dans le bureau, en fait, puisque la tenue est la même.
J'étais persuadé qu'à ce moment-là, il y aurait une seconde de plus de plan, et qu'en fait, on ne voit pas de visage, qu'on voit juste du noir.
Oui, je m'étais fait la même réflexion, et je pense que ça aurait bien mieux marché.
Mais tu vois, du coup, je me dis, est-ce que peut-être il aurait vu que c'est Palpatine, mais il n'aurait pas confiance en sa vision, vu que pendant tout l'épisode, on a les autres qui ont l'air de douter de la force, qui ont l'air de douter de ce que voit Yoda et tout. Peut-être que Yoda, quelque part, il doute un petit peu de lui-même aussi.
Ah oui, bah complètement, bien sûr qu'il doute. Mais est-ce que du coup, partons un peu plus loin, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant en fait qu'il voit Dark Vador et qu'il se confronte à Vador?
J'avoue que j'attendais ça en fait.
Ouais, parce qu'au final, il n'aurait pas pu relier, ça aurait pu être n'importe quel seigneur Sith de l'histoire sans qu'il le sache.
Ouais.
C'est vrai, par rapport au
masque. Et ça aurait été fort, ouais. Ou alors que dans ce cas-là, sous la capuche de Sidious, il voit le visage d'Anakin, ce qui lui aurait permis. Parce qu'on voit quand même que dans l'épisode 3, il doute par rapport à Anakin. Et ce qui aurait peut-être permis de lui mettre ce doute-là. Et voilà, il y avait peut-être un petit truc à rajouter pour que le lien avec l'épisode 3 soit plus fort. Maintenant, moi je trouve que ça fonctionne dans l'épisode.
C'est vrai. Ça aurait même pu être d'ailleurs le visage de la partie sombre de Yoda. Tu vois, avec au moins un peu ce visuel.
Oui, pour faire un peu écho à Dagobah avec la caverne et tout ça.
Ça aurait été intéressant.
Ouais, ça aurait pu être pas mal. Après, c'est bien je sais plus si c'est dans le dernier épisode ou celui d'avant, mais en fait, il y a quand même un combat entre Dark Sidious et Yoda à distance quand même, parce qu'il touche un truc. C'est pas dans cet épisode-là qu'il va dans une salle et il touche un truc pour aller justement sur la planète où je confonds avec un autre.
Est-ce que c'est pas dans Rebels ?
Non, je crois que c'est bien de ça qu'on parle. En fait, il y a une espèce de pancine. Hein, je vais parler moi d'Harry Potter. Et du coup...
Enfin, moi, ça me fait penser au Palantir un peu dans Le Seigneur des Anneaux.
Avec Dooku, qui est là aussi, présent.
Ah oui, c'est juste.
Mais comme s'il allait rentrer dans la tête de Yoda.
Oui, c'est juste. Donc,
mais du coup, tu vois, j'ai pensé à ce qui a été fait avec l'épisode 8 et 9. Comme quoi, déjà à l'époque, il y avait ce côté à distance, on peut s'affronter, quoi.
Ah oui, c'est vrai. Tiens, tu vois, effectivement.
Dans un monde fantasmé, oui.
Oui, oui. Bah, après, on ne sait pas quelle est la part de fantasme et quelle est la part de... Voilà. Est-ce qu'au final, il est allongé sur le sol et il est en train de voir tout ça comme s'il avait pris du LSD? On ne sait pas, quoi.
C'est pas... Écoute, Maître Windu te dirait qu'il a brûlé la cafetière, donc c'est que forcément, c'est dans sa tête, voilà.
Moi, j'aime bien ce début d'épisode, du premier épisode, puisqu'on a un Yoda qui est un peu qui est complètement à l'ouest comme il est dans l'épisode 5, et je trouve que ça fonctionne bien parce que c'est les prémices de, voilà, comme dans l'épisode 2 où on nous montre le gars un peu il est espiègle, il est un peu tortueux,
mais disons que ça montre la parano qu'on avait déjà vu avant par rapport aux autres Jedi et tout à côté, tu vois, c'est que vraiment ils se font plus du tout confiance entre eux aussi.
Et puis ils ont plus de lucidité, le côté obscur a vraiment obscurci leur jugement, et là c'est presque une preuve tangible.
Ouais. T'es triste pour eux parce que tu sens qu'ils vont bientôt y passer et tu peux rien faire pour les secouer, quoi. C'est triste.
Je trouvais ça plutôt malin d'ailleurs de ramener Ki-Adi Mundi pour ces épisodes, parce que sinon c'était plutôt Mace Windu qui parlait généralement, et Mace Windu il y a un rôle assez particulier aussi dans Star Wars Jedi, on le sent qu'il est... Enfin, moi, j'ai jamais senti très très net, quelque part, un petit peu oui, bah, à la tangente.
On a un peu ce côté suspicieux quand on regarde son parcours.
C'est ça, alors que Ki-Adi-Mundi, on a plutôt une bonne image du Jedi classique sur lui. Et c'est lui qui propose plusieurs fois, c'est peut-être Dooku qui a été l'élève de Yoda, que peut-être que du coup il est manipulé pour ça. Voilà, ça représente un petit peu l'ordre et le conseil en général, cet avis de Ki-Adi.
Ouais, mais tu vois, encore une fois, on voit que Palpatine, il a fait bien des dégâts chez les Jedi.
Ah oui.
Bah, son travail de sape sur le long terme fonctionne. Parce que c'est pareil, voilà, on n'a pas l'étendue complète de son travail. On a des bribes à droite à gauche pendant Clone Wars, pendant les films. Entre qu'est-ce qui se passe, toutes les histoires qui peuvent être racontées pour nous expliquer qui crache sur un Jedi pour le faire douter de l'autre ou ce genre de choses.
Bon, on voit bien aussi qu'il est fort pour juste dire un petit mot qui va semer le doute chez quelqu'un, lui faire ressortir genre une peur ou un truc comme ça. La personne va en parler à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et ça fout le bordel. Hein. C'est un bon manipulateur. Hein.
Tout à fait. Ouais, alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces épisodes avant qu'on leur donne une note ?
Oui, moi j'ai autre chose à dire. Je voulais faire un petit point
la
aussi VF. sur les cinq prêtresses, ces êtres immortels très Miyazaki dans l'idée. Je trouve que c'est un concept qui est assez intéressant, notamment aussi dans leur visage, qui me fait penser effectivement à toute une inspiration japonaise de théâtre avec des expressions figées. Je voudrais revenir sur un peu leurs noms. Donc il y en a en anglais Serenity, Anger, Confusion, Joy et Sadness, sachant que c'est Serenity la leader. Et je trouve que c'est assez intéressant de personnifier un petit peu tous ces états qu'on peut avoir et qui m'ont fait un peu penser, ça marche un peu en parallèle, aux cinq étapes d'acceptation de la mort.
Ah bah j'allais te le dire.
Ah
bah
voilà, on est d'accord.
Voilà,
qui sont plutôt déni, colère, négociation, dépression, acceptation. Il y a un parallèle, c'est pas du 1 pour 1, mais ça y fait penser quand même.
D'autant plus que ces trois épisodes ont une thématique quand même autour de la mort.
Ah bah oui.
Voilà, ouais. Et le la mort n'est que le commencement, ça reste aussi la phrase du deuxième épisode.
C'est aussi la phrase de la momie dans les films de la momie avec, comment ça s'appelle ? Avec Brendan Fraser, voilà.
Ah, de là, imaginez que Yoda a influé sur la momie.
Ah, peut-être. Mais après, les masques, il y a un côté aussi très... tu parlais du théâtre japonais, mais c'est vrai que c'est très théâtral. Quand tu prends des leçons d'acteur, tu as souvent des histoires de masques. Même, tu vois, dans le théâtre italien aussi, tu as souvent une utilisation de masques aussi. Mm-hmm. Donc, il y a ce côté... tu vois, ça rappelle aussi avec le côté genre... Tu joues un rôle et tu caches tes émotions en toi, tu vois.
Et là, tu touches du doigt ce que j'aime chez Filoni, en fait. C'est à quel point il est capable d'aller dans le sens de ce que Lucas voulait faire, mais en développant quelque chose de nouveau, quoi. Parce que voilà, la philosophie japonisante, c'est... Voilà, Lucas s'en est aussi beaucoup inspiré. Et lui arrive à développer de nouvelles thématiques autour de ça, tout en s'inscrivant dans les thématiques qui sont déjà développées. Et moi, j'ai pas retrouvé quelqu'un qui sache le faire comme Filoni pour l'instant. Voilà, j'apprécie le travail de plein de gens, de Tony Gilroy, Gareth Edwards, mais il y a que lui. Enfin, pour moi, il y a que lui qui arrive à qui a capté l'essence de Star Wars au même point que Lucas, à mon sens.
Ouais, moi j'apprécie beaucoup son écriture, mais il y a un souci, c'est qu'il est lent à démarrer. À chaque fois qu'il fait une première saison d'une série, c'est dur hein, pour lancer la machine. Hein. Et qu'à voir avec Mandalorian, là, moi j'ai eu. Enfin, j'étais un peu déçu, c'était un peu vide, alors qu'il nous habitue à faire des. Tu vois, on l'a vu là sur Clone Wars, à faire des trucs de fou. Donc j'espère que la saison 2, là, il va appuyer sur la pédale, comme on dit.
Mais je tiens juste à dire, Filoni. Et les auteurs qui sont derrière, parce que là, moi, je suis en train de regarder.
Ah bah, bien sûr.
Attends, c'est marqué que c'est Christian Taylor hein, qui a été writer principal sur ces épisodes. Mais effectivement, Filoni, en tant que storyteller...
Oui, ou showrunner.
C'était showrunner le mot que je cherchais. Permet d'amener ces thématiques régulièrement et c'est plutôt bien.
Moi, je le vois vraiment comme un... comme un Lucas, c'est-à-dire que ce mec il va arriver en disant bon bah voilà, vous avez des idées d'épisodes, etc. Oui, alors moi j'en ai un sur une thématique autour de la force, machin, ok. Présente-moi ton pitch, et puis voilà. Alors telle idée je dis oui, telle idée je dis non, tadana. Et après dans une discussion, il va pouvoir amener des éléments, d'approfondir, mettre sur d'autres pistes, faire un lien avec d'autres choses qui ont été développées à droite ou à gauche. Et pour moi, c'est ça en fait qui fonctionne chez Filoni, c'est qu'il est, c'est un bon liant.
Bah, c'est un c'est bon de la maïzena. C'est ce que tu décris, c'est ouais, le travail
c'est ça,
d'un showrunner.
C'est ça, c'est ça. Et je trouve que lui arrive à le faire comme personne d'autre sur la saga Star Wars.
Et puis, il y a un autre aspect qu'on n'a pas du tout parlé dans cet épisode, au final, c'était la création des clones et Sifo Dyas. C'était quand même intéressant de nous placer quelques infos.
Il y a donc les premiers épisodes de cette saison 6, donc, qui tournent autour d'un complot, hein, d'un complot d'assassinat des Jedi. Donc, ils sont quatre premiers épisodes. Et puis, concernant Sifo Dyas, c'est l'épisode qui est juste avant ces épisodes 6, c'est l'épisode numéro 10, où on va en apprendre un peu plus sur Sifo Dyas.
Oui, ils font toute une enquête, ils vont revoir justement le chancelier Valorum.
Moi, j'adore cet épisode, je le trouve génial aussi.
Ouais, les histoires avec des familles criminelles, enfin, c'est super intéressant, tout cet aspect politique complot. Là. J'aime bien quand ils développent ça, franchement.
En plus, on a une apparition de Sifo Dyas, c'est un personnage qu'on n'avait jamais vu.
Et on le voit dans le temple de Corriban, parce que moi je dirais Corriban jusqu'au bout. Et il a les yeux rouges, il est complètement tourmenté.
Oui, il est citifié.
Il est citifié par la torture et tout. Ce qui du coup me fait penser aussi aux Inquisiteurs. Ils auraient pu devenir ça. Certains ont certainement vécu un périple aussi terrible que lui. Ouais, même peut-être. Si je ne pense pas que ce soit Sifo Dyas au final. Je ne sais plus si c'est vraiment dit dans l'épisode. Je crois que c'est
pour moi, c'est
pas Palpatine.
Pour moi, c'est pas Sifo. Enfin, pour moi, à mon sens, c'est pas Sifo Dyas. Pour moi, Sifo Dyas, il est mort. Moi, j'ai toujours vu ce personnage comme une vision.
Je crois qu'en fait, c'est ce que j'en ai compris. Hein. Je ne me rappelle plus exactement. Mais qu'en fait, justement, ça, c'est Palpatine qui prend l'apparence de Sifo Dyas pour. Essayer de tester un peu Yoda.
Un peu. Après, ça pourrait être intéressant, effectivement, que Sifo Dyas n'ait pas juste été assassiné comme ça, mais qu'il ait été avant torturé sur Moraban, par exemple. Ça aurait été intéressant.
C'est ça. Sifo Dyas, on le retrouve dans le assez excellent, j'ai beaucoup aimé, Dooku Jedi Lost, un audiobook audio-drama qui va sortir en livre. En VO, qui est sorti. Donc, il sortira peut-être en VF, du coup. Peut-être. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Mais qui est assez intéressant par rapport à ces éléments sur Sifo Dyas, je trouve. Notamment.
Alors, je ne me rappelle plus à quel moment il intervient dans le bouquin. Me diras au pire.
Plusieurs fois, parce qu'en fait, justement, on apprend qu'il a. Enfin, très. On le savait plus ou moins, mais il a eu des visions. De ce qui allait se passer. Et donc, du coup, il y a beaucoup de discussions et du coup, ils sont très proches et ils en arrivent à penser qu'il faut peut-être prendre en compte ses prophéties et les visions de Sifo Dyas. Et donc, on comprend que plus tard, il a dû encore travailler dessus et que du coup, il a dit en fait, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut créer une armée pour la République. Elle ne le sait pas encore qu'elle en a besoin.
Ah, c'est intéressant.
Mais il faut le faire.
Oui, ça y est, je vois. Ouais. Mais ils le sous-entendent un peu justement dans l'épisode de la saison 6 à un moment que justement il avait tanné le conseil et tout en parlant de ses visions et tout et que le conseil et ben ils avaient pas voulu en tenir compte.
Oui, ça va dans ce sens là.
Bah écoutez, j'espère que ce film que ce livre sera traduit en VF, parce que là, vous m'avez donné pas mal envie de le lire. J'ai bien aimé également les passages avec Dooku dans le livre Maître et Apprenti. Pour un personnage pour lequel j'avais pas trop d'intérêt, je trouve qu'ils arrivent pas mal à le développer quand même.
Bah, tu verras dans le bouquin, c'est pas mal, on apprend des petits trucs sur Dooku et non, c'est intéressant.
Ouais.
Ouais, ça me botte bien là.
Ouais, et noter que c'est un audio-drama à la base, donc il y a plusieurs acteurs qui jouent comme une pièce de théâtre, donc c'est vachement intéressant.
Ouais.
Pour ceux qui veulent le tester en VO.
Ouais, en VO, parce qu'en VF, on ne l'aura pas.
Non, pas sous ce format-là, c'est évident.
Est-ce que, David, tu veux encore ajouter quelque chose ?
Non, je crois que là, j'ai fait le tour.
Alors, est-ce que tu peux nous donner ta note pour ces épisodes ?
Sur certains aspects, j'aurais envie de baisser, sur certains aspects, j'ai envie de monter. Alors si on fait une note globale, je pense qu'on est quand même vers 13,5, 13,14 peut-être. Parce que les aspects, effectivement, qu'on a parlé sur les prêtresses, où c'est vachement intéressant, quand on va sur la planète des Sith, c'est vachement intéressant. On a tous ces aspects lumineux et sombres à la fois. Après, la narration, elle est un peu poussive, il y a un aspect très jeu vidéo, mais ça donne une fin qui est plutôt intéressante, parce que là, du coup, c'était la fin encore.
Ah, c'était, oui, la vraie deuxième fin.
Avant la prochaine fin, qu'on arrivera après. Ça, faire des liens avec les fantômes, donner quelques explications, je trouvais ça intéressant, parce que dans les films, ça manque un petit peu aussi. Donc voilà, du coup, je suis un peu mitigé. J'ai plutôt apprécié, je trouve qu'ils sont intéressants à regarder, je le conseille à tout le monde. Et bon, il y a une certaine lourdeur qui me dérange un peu.
Faye.
Ah bah écoute, j'avais envie de mettre un peu moins, mais comme j'ai bien aimé notre discussion, je vais lui mettre un 12 pour la discussion.
Oula, oui.
Pour le dernier épisode surtout, et puis pour quelques petits points, mais sinon j'ai trouvé ça trop bordélique, il y a des longueurs, des problèmes d'écriture, et puis comme l'a bien dit David, le côté voilà, niveau de jeu vidéo, c'est vraiment c'est poussif, quoi. C'est, on n'a pas l'intensité des épisodes de la fin précédente, si tu veux, avec Ahsoka, et moi j'aurais voulu un truc plus fort.
Quant à moi, bah, c'est cette fois-ci moi qui vais mettre la meilleure note avec un 15 sur 20 parce que j'ai vraiment été happé aussi par le côté mystique de la Force et par le fait que ce soit Yoda le personnage principal quand j'ai vu ces épisodes pour la première fois, que le dernier épisode voilà m'a vraiment relève effectivement l'arche narrative, que c'est une belle conclusion aussi, je trouve, une belle seconde conclusion. Ce sont des épisodes que je regarde régulièrement. Voilà. Alors pas forcément en entier, pas forcément toutes les épreuves, mais voilà, des passages régulièrement. Ça fait partie. Ceux-là, Ahsoka, Krell, l'épisode 16 de la saison 5 avec le combat de Dark Sidious contre Dark Maul, ce sont des épisodes que je regarde régulièrement. Il y a aussi les bleus, l'épisode 5 de la saison 1, ou l'épisode qui se passe sur, avec Yoda sur, quand il est avec les clones sur la planète des... comment il s'appelle ? Dans la saison 1, je crois que c'est le premier épisode. Sur Toy Daria, voilà. C'est vraiment des épisodes voilà, qui ont réussi à monter Star Wars d'un niveau, voire de plusieurs niveaux, dans la grille de lecture, et ça pour l'instant les films ne me l'ont pas encore redonné, donc ça reste le haut du panier pour moi. Alors messieurs dames, avant que nous concluions, je voudrais que nous fassions un petit point sur la saison 7, parce que voilà, nos auditeurs le savent, tous ces épisodes de rattrapage étaient destinés à pouvoir entamer les reviews de la saison 7. La saison 7, elle est prévue pour dans moins d'un mois. Nous avons eu cette semaine une nouvelle bande-annonce et je voudrais savoir un petit peu vos attentes. J'aimerais que nos auditeurs puissent nous entendre après avoir débriefé tous ces épisodes sur le futur de Clone Wars. Donc on rappelle qu'il y a 3 arcs de 4 épisodes qui se dessinent visiblement. Donc un qui sera consacré à un escouade de clones, le Bad Batch je crois, ou quelque chose comme ça.
Oui.
C'est ça, avec des clones un peu spécialisés qui font penser un peu à l'équipe de Krell dans la trilogie originale.
Il y a un arc de... qu'à la base, c'était aussi des clones qui auraient été potentiellement un peu à la marge, voire un peu ratés. Et oui. Donc, du coup, ils forment un commando spécial.
Voilà. Il y a ça, il y aura 4 épisodes qui seront consacrés au siège de Mandalore. Et 4 épisodes qui seront consacrés, j'ai un trou... Ah zut, je ne sais plus, c'est pas grave. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous donner un peu vos attentes ?
Moi j'attends d'avoir quelque chose de très très fort en écriture, avec vraiment beaucoup d'émotions fortes, beaucoup d'aspects dramatiques pour vraiment montrer qu'on se rapproche de l'épisode 3. J'aimerais bien, tu vois, tu parlais de Siège de Mandalore, j'aimerais bien qu'on ait peut-être des liens avec Mandalorian, que ça pose un peu un historique pour voilà relier aussi à la série. Enfin, j'aime bien avoir des liens avec plein de choses, mais vraiment j'attends de retrouver une belle écriture de personnage.
Avec Gideon peut-être dedans.
Peut-être. Hein. Je sais pas. Enfin, moi j'attends d'avoir des beaux liens, mais j'attends vraiment surtout des personnages bien travaillés avec vraiment des épisodes forts qui vont nous marquer. Parce que si c'est la dernière saison, faut y aller à fond. Et qu'on ait un final vraiment où on se retrouve relié à cet épisode 3, qu'on voit un peu ce qui arrive à d'autres personnages par rapport à l'Ordre 66, et vraiment, tu vois, qu'on ait quelque chose de... qui lie tout ça un peu.
Oui, mais c'est un peu la même chose que je veux voir ces nouveaux épisodes avec Ahsoka, avec Maul. Ça, c'est, ça m'intéresse énormément. Si on peut faire des liens avec et Solo et le Mandalorian. Et l'épisode 3, et l'épisode... Enfin, tous les autres épisodes, en fait.
Et Rebels.
Et Rebels, voilà. C'est ce que j'aurais oublié de citer. Ouais, ça me botte bien. Ils ont l'occasion. Profitez de l'occasion, quoi.
Moi, je me demande ce que... ce qui sera coupé, en fait, de la saison qui aurait dû être, entre guillemets, prévue. Est-ce que Filoni a encore autre chose sous le pied? Est-ce qu'il avait d'autres idées? Est-ce qu'il va nous les développer? Est-ce qu'il va essayer de bourrer ses épisodes au point qu'on va avoir envie de vomir tellement il y aura de choses à digérer? En tout cas, il y a juste le côté visuel. Je suis très attaché à l'ancienne série, même si évidemment ça a vieilli, et je trouve dommage qu'on soit pas reparti dans les dizaines à 100% à l'identique, puisqu'il y a un lissage qui va être opéré, il y a un léger retravail au niveau notamment des visages, en tout cas pour Anakin et Obi-Wan. Je trouve que c'est moins présent pour les clones. Donc à la fois je suis content, parce que c'est une actualisation, donc c'est intéressant, et en même temps, je trouve ça toujours dommage quand on a six saisons d'un même tenant, et puis qu'il y en a un qui va dénoter un petit peu quand on va le regarder. Maintenant, bon. Il s'est passé du temps.
Ouais, je pense qu'ils ont quand même conservé un petit peu ce mode comics qu'ils avaient sur...
Oui, on le retrouve.
C'est pas non plus le style de Rebels, c'est la qualité de Rebels avec un style un peu Clone Wars. Et je sens qu'on va avoir des épisodes qui graphiquement vont être magnifiques, qui vont pas forcément avoir à pâtir, j'espère, qui n'auront pas à pâtir par rapport au film, et que du coup on va avoir quasiment un film supplémentaire, quoi. Que, en termes de temps, ça doit pas être si long en plus.
Le fait... j'ai retrouvé la troisième arche narrative, donc ça sera un arc consacré à Ahsoka sur Coruscant, donc c'est certainement ce qui va l'amener à rejoindre le siège de Mandalore. Après, je pense que le lien, il sera là, de toute façon, le lien visuel, il existe, il est prenant quand on voit les bandes-annonces. Tu reconnais du Clone Wars. Y a pas de... ça dénote sans dénoter, les personnages sont les mêmes, ils sont juste un peu plus fins, l'animation, effectivement, ils ont conservé ce style cartoonesque et on est dedans, y a pas de souci, quoi.
Ah, mais les trailers, je les ai trouvés plutôt beaux, hein, franchement.
Ah oui, les trailers, ils sont magnifiques, les plans où on a Dark Maul contre Ahsoka, moi j'ai vraiment très envie de voir ça, parce que là il y a moyen de nous faire un combat épique, comme on vient de le dire, il y en avait beaucoup dans Clone Wars. Moi j'attends un combat au sabre laser épique, et j'attends qu'on nous relie un peu l'histoire d'Ahsoka, de Rex aussi, parce qu'on en a pas parlé.
Ça, c'est vraiment l'occasion de nous montrer l'autre côté de l'Ordre 66, avec tous les personnages qu'on a suivis dans Clone Wars, qu'on ne voyait pas dans les films, et c'était normal, c'était pas le bon média, mais là du coup profitez-en, montrez-nous plein de trucs.
C'est clair, allez-y à fond. Moi j'ai envie d'avoir une bataille spatiale digne de la bataille de Coruscant, alors que ce soit la bataille de Mandalore ou une autre, faites-nous un truc épique qui va envoyer bouler la bataille d'Exegol avec des trucs dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment le moment. J'ai envie que le dernier épisode, on nous dise Anakin et Obi-Wan sont en route pour Coruscant, le chancelier vient de se faire enlever. J'ai envie qu'on relie, j'ai envie que la boucle soit bouclée.
Mais ça serait trop bien, t'imagines, voilà. Ça finit sur ça.
Oh, ce serait génial. Mais parce que en fait, on est dans depuis 2012, on sait que c'est pas fini. On le sait d'autant plus qu'on a eu Rebels, donc on voit qu'il y a un potentiel et qu'il y a encore des choses qui nous ont pas été racontées. Et là, vous avez la possibilité de boucler la boucle, mais bouclez-la à fond, mais vraiment, qu'on puisse qu'on puisse finir comme quand on finit Rogue One et qu'on peut enchaîner sur A New Hope. Là, il faut qu'on finisse la saison 7 et qu'on enchaîne sur l'épisode 3. Voilà, moi, c'est ça dont j'ai envie.
Ah, ça serait cool, c'est vrai.
Et pour revenir sur l'avant épisode 3, je reviens à nouveau sur cette série Clone Wars en dessin animé qui offrait une possibilité de lien avec début d'épisode 3 qui était quand même vachement intéressant.
Ah oui, oui.
Le combat avec Grievous qui permettait en plus de savoir pourquoi il était moins fort que ce qu'on y pensait.
Ah, mais il y avait de super combats aussi, l'animation elle est excellente. Voilà.
Donc je sais pas si on peut refaire ce passage là ou refaire des choses un petit peu similaires, mais de cette qualité de.
Je t'avoue que effectivement je m'y suis mis à le penser aussi. Maintenant ça ferait. Enfin, pour nous c'est clair que le dessin animé Clone Wars n'est pas canon. Mais à mon avis, ça n'allait pas pour tout le monde. Revoyez les capsules de 101 de Francis. Mais quelque part, ça serait le moyen de dire, ouais, voilà, on a bouclé la boucle, on a commencé avec ça. Enfin, on finissait en commençant avec ça. Et puis là, on vous remet un peu le fait que le Palpatine soit enlevé. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment le temps dans ces trois arches narratives de le faire? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, je sais pas, admettons que ce soit le siège de Mandalore qui ait conclu la série, est-ce qu'on a le temps de voir ça et en même temps de voir Anakin et Obi-Wan partir vers Coruscant ou de voir le chancelier enlevé? Ouais, je pense qu'une mention, ça serait une mention en communication, ouais, ça serait déjà bien.
Tu vois, genre à la fin, ils sont contents, c'est bon, c'est fini le truc de Mandalore. Voilà.
Et puis on dit, non, vite, vous êtes rappelés sur Coruscant, dépêchez-vous, on a besoin de vous. Alors, le chancelier vient d'être enlevé.
Pour moi, je vais même te dire, je suis persuadé que le siège de Mandalore, c'est pendant l'épisode 3. Parce que j'ai lu le roman Ahsoka déjà, ce qui n'est, je crois pas ton cas, Loïc.
Bah non.
Et donc, du coup, pour moi, ça va se passer pendant l'épisode 3. C'est le side story Ahsoka qu'on va avoir.
Voilà, donc ça voudrait dire qu'Ahsoka se trouve coupée d'Anakin et d'Obi-Wan, qu'on pourrait peut-être suivre en parallèle sur les premières heures ou sur la bataille de Coruscant.
Ah, mais t'imagines, pendant qu'elle est à Mandalore, genre elle va apprendre ce qui se passe, les Jedi sont tombés.
Oh, ça serait génial. Après, c'est vrai que dans la bande-annonce, on a un plan où elle se tient la tête. Est-ce qu'elle ressent?
Ouais, elle est morte parce qu'elle s'est pas fermée à la force, tu vois, donc elle peut peut-être croire que son maître est mort.
C'est ça. Après, il faut pas oublier que l'épisode 3, il se déroule pas en 24 heures. Il se déroule quand même normalement sur plusieurs semaines. Alors, est-ce que ça sera peut-être le moyen justement de nous le canoniser ou justement de le décanoniser sur le fait, sur la temporalité? Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, David, c'est pas évident aujourd'hui, la temporalité dans l'univers Star Wars, c'est pas évident.
C'est un peu flou.
Non, mais peut-être que tu vois, l'épisode sur Ahsoka, il peut se dérouler sur la même temporalité que l'épisode 3, et du coup, ça pourrait finir sur elle qui ressent à ce qui se passe au moment de l'ordre 66.
Ah, ce serait génial. Alors, si on a un montage parallèle où Vador arrive et où elle s'en va, ce genre de choses, enfin, ce serait. Je sais pas, elle dépose Rex sur sa planète, et puis après, elle.
Elle va se cacher ou...
Elle va se cacher, ce serait génial. Enfin, moi, j'attends vraiment ce genre de choses, quoi.
Ouais. Ça pourrait.
Ah. Non, mais je la vois bien, tu vois, genre apprendre, en fait, la mort de... Enfin, croire que son maître est mort, son ancien maître est mort, et du coup, elle pourrait aller rejoindre, par exemple, Monsieur Organa, et dire, je vais t'aider dans la résistance, parce qu'après, on sait qu'elle devient, dans Rebels, elle l'aide au niveau de la résistance, voilà. Donc, peut-être, ça pourrait lancer tout ça aussi. Et donc, du coup... les persos se retrouveraient quelque part, ça pourrait être sympa.
Après, je la vois pas interagir avec ces personnages-là, parce que sinon, ça implique que Obi-Wan et Yoda soient au courant qu'elle est toujours en vie, parce que je vois pas pourquoi Bail Organa n'aurait pas partagé cette info avec eux.
Peut-être qu'elle veut pas leur dire parce qu'elle leur fait la tête, genre, vous le dites pas, je sais pas moi.
Attendez, je reviens au sujet de Clone Wars. Il y a une phrase dans cet épisode qui m'a dérangé, faut que vous me disiez ce que vous en pensez. Qu'est-ce que c'est que cette phrase de « il y a un autre Skywalker, qu'est-ce qu'elle vient faire là ?»
Oui, alors moi aussi ça m'a dérangé, je suis d'accord avec toi.
Ça n'a pas de sens pour moi.
À ce moment-là de l'histoire, ça n'a pas de sens.
Je ne comprends pas.
Parce qu'elle n'est pas enceinte déjà, donc... voilà,
même si elle est...
Si... Oui, non, on ne sait pas si elle est...
Je comprends pas. Je sais pas pourquoi c'est là, c'est un peu bizarre. C'est pour faire le lien, que c'est la dernière phrase que Yoda dit. Mais je comprends pas. C'est trop perturbant, en fait.
Ou alors, on va apprendre qu'il y a un Roger Skywalker qui est en fait du frère caché. Je sais pas, moi.
Non, bah après, je pense que Shmi, si elle avait eu un autre enfant, elle s'en souviendrait.
Ou alors, Palpatine, il a fait des choses. Vu qu'elle sait pas qui est le père de son fils, c'est peut-être Palpatine qui est passé par là, vu qu'il sème aux 80.
En plus, l'épisode, je trouve, a pas besoin de cette phrase.
Non.
Il a pas besoin de relancer un mystère. Et ils le font. Je sais pas d'où ça sort, et c'est bizarre.
Ou alors il a adopté Ahsoka.
Parce qu'on sait qu'il y en a deux des Skywalker, au final.
Est-ce que on peut peut-être sommer Filoni de s'expliquer sur cette phrase.
Ouais. Bah, peut-être qu'il a adopté Ahsoka et que c'est Ahsoka Skywalker, je sais pas.
Ouais. Ah, bah, comme un autre personnage qui peut prendre, peut prendre ce nom. Hein.
Alors que cet autre personnage n'aurait pas dû prendre ce nom-là, d'après moi.
Autre débat. Et peut-être qu'il y aura une explication dans cette saison 7.
Peut-être. Eh ben, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission Star Wars en direct de Clone Wars. Ben, merci à Faye de nous avoir accompagnés pour ces deux émissions. Et merci aussi à toi, David.
C'était un plaisir.
Voilà. J'espère que nos auditeurs auront pris autant de plaisir à nous écouter que nous à en parler. Donc on rappelle que pour vous rejoindre sur notre serveur Discord, c'est le moyen le plus simple. Pour toi Faye sur Twitter et pour toi David sur Facebook et sur Twitter et pour nous
et sur Facebook.
Et sur Facebook. Pour joindre Star Wars en direct, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse studio@starwarsdirect.com, swendirect.com, ou bien sûr nous rejoindre nos réseaux sociaux. Nous sommes aussi sur Facebook, sur Twitter, Instagram et sur YouTube. Je ne partage pas nos prochaines émissions parce que d'ici à ce que l'épisode soit sorti, il va certainement y avoir déjà des changements et de nombreuses émissions seront certainement déjà enregistrées. Par contre, vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre serveur Discord pour nos enregistrements live, pour échanger, pour partager vos folles théories comme nous venons de le faire. Et pour montrer vos couleurs et nous soutenir, n'oubliez pas de faire un tour du côté de la boutique sur le site starwars.direct, onglet boutique. On y sommes disponibles sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et Apple Podcast. Et on remercie toujours nos partenaires que sont siteclan.net, mintinbox.net, starwarsolenet.com, starwarsuniverse.com, planetstarwars.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, Génération Star Wars et Science Fiction. Donc de la part de Faye, de David et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.